Événement étrange, différent, jamais vécu, même incroyable, la résurrection de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui cette résurrection, comme toutes les années, même tous les jours de notre vie pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la résurrection n'est pas simplement un événement historique, mais c'est un événement changeant. Changeant pour nous qui sommes des vrais croyants en Jésus-Christ, pour ceux qui ont expérimenté la nouvelle vie. Jésus-Christ, c'est la puissance, l'évidence de la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers cette résurrection. Mais plus que ça, quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, nous vivons aussi cette même espérance, cette même expérience que en Lui et que par Lui. Je ne vous connais pas tous, je ne connais pas tous votre expérience dans le Seigneur. J'imagine quand même, peut-être parmi nous ce matin, il y en a ceux qui viennent par l'habitude. Oui, on dit qu'on est croyant, mais on pratique une religion tous les jours, tous les dimanches, peut-être dans notre connaissance mentale. Mais est-ce qu'on vit cette expérience à travers la puissance et la résurrection de Jésus-Christ? La réalité, c'est qu'on ne peut pas fabriquer cette réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas simplement imaginer et que ça arrive comme ça. La réalité, c'est la puissance de Dieu qui doit se manifester. Et moi, je crois qu'au fur et à mesure que nous comprenions nous-mêmes la résurrection de Christ, nous sommes à la pointe de comprendre l'œuvre de Dieu qui peut se passer en nous. Tant que ça reste toujours une histoire dans le passé, même où les dirigeants de la religion à ce moment-là, ils ont même osé de payer les militaires, les soldats pour raconter des mensonges qu'ils ont débarrassé du corps de Jésus eux-mêmes et qui n'est pas marché. Nous voyons à travers l'histoire de la résurrection de Jésus le témoignage de plusieurs personnes qui hésitent, qui cherchaient, que malgré ils comprenaient, ils connaissaient l'histoire de Jésus, ça les a étonnés tellement qu'ils avaient du mal à comprendre exactement ce qui se passait. Les femmes qui sont venues, ils n'ont pas pu faire les choses à cause de la fin de journée de la crucifixion de Jésus. Ils ne pouvaient pas faire la préparation du corps de Jésus. Donc, ils sont venus aussitôt, très tôt, le matin, après la Pâque, la résurrection, pour vivre la résurrection de Jésus. Peut-être pour nous, chacun de nous, nous lisons des versets bibliques, nous acceptons comme quelque chose qu'elle a dit tout à l'heure dans son témoignage. Oui, c'est des histoires qui nous racontent, mais ça ne fait pas grand-chose. Quand on est active, quand on est en plein de vie, il y a toujours des choses qui nous préoccupent, n'est-ce pas? On peut aller toujours à droite et à gauche, ou gauche à droite. Et on peut toujours trouver quelque chose qui peut nous occuper dans notre pensée. L'avenir, on pense que l'avenir, quand on est jeune, on pense, oui, si je peux avoir ça, si je peux faire ça, si je peux aller en France, si je peux aller aux États-Unis, si je peux prendre des vacances. C'est curieux combien de fois en France, on a l'impression que les gens y vivent pendant les vacances et à la fin des vacances, ils vivent en racontant les vacances. Et après Noël, ils commencent à y vivre pour la vacance qui viendra. Ça veut dire la vie, peut-être, c'est pas très intéressant pour nous tous les jours. On se fait avec, mais la vie, c'est pour la vacance. Et parfois, on se pose les questions, la résurrection, à quoi ça sert pour nous, des chrétiens? Je crois que je voudrais vous encourager aujourd'hui d'imaginer dans votre esprit et dans vos pensées, qu'est-ce que c'est la résurrection pour moi, pour toi, aujourd'hui? Il faut remarquer que après la résurrection de Jésus-Christ, malgré pour ceux qui connaissaient l'histoire, qu'ils ont entendu toute la préparation de la parole de Jésus, il y en avait ceux quand même qui sont arrivés à la crucifixion de Jésus, qui ne voyaient pas vraiment la réalité. Au contraire, au moment de la crucifixion, ils pensaient que tout était fini. Tout était terminé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, demain, après la célébration du Pâques, est-ce que demain, la résurrection s'est terminée? Ou est-ce que après la semaine prochaine, la vie en Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on vit dans l'Église, mais pas dans la vie quotidienne? Je voudrais vous signaler quelque chose de très important, plusieurs témoignages qu'on trouve dans la Bible à travers l'histoire biblique. Des disciples d'abord, lors de l'arrestation de Jésus, tous abandonnés, ils ont pris fuite, ils se sauvaient, ils se barricadaient eux-mêmes dans leur maison, selon l'évangile de Jean. Ils s'échappaient pour se sauver eux-mêmes, pour se protéger eux-mêmes après la crucifixion de Jésus. Mais quelques jours après la résurrection de Jésus, ils se trouvaient dans la joie. De plus, selon Actes, on trouve qu'ils ont affronté la persécution eux-mêmes pour annoncer la résurrection et la vie en Jésus-Christ. Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, il s'enfuit, vous connaissez cette histoire. Il se retirait de la présence, il suivait de loin, la Bible nous dit, Jésus, pendant le moment du jugement. Et même lors de le jugement de Jésus, on lui a questionné, il a 3 fois renié sa foi en Jésus. Mais peu après, encore dans le livre des Actes, Pierre, il est devenu un homme qui portait un témoignage de la puissance de la résurrection de Jésus et la force qu'il a changé. La résurrection de Jésus, c'est plus que simplement d'une histoire, mais c'est quelque chose qui doit nous faire vivre nous-mêmes dans nos actions et dans nos vies. Thomas, lorsqu'il était un disciple de Jésus, Jésus était mort, crucifié sur la croix. Thomas disait, je veux voir les marques dans ses mains. Je voudrais toucher les points où il était percé. Peu après, Thomas aussi, dans le livre des Actes, il est devenu un témoin de Jésus et sa résurrection. Jacques, le frère de Jésus, on trouve la même chose. Il avait du mal à croire la résurrection de Jésus-Christ. Mais après la résurrection qu'il a vue, qu'il a témoigné la vérité de Jésus, il se levait pour témoigner de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Paul, lui qui persécutait à l'acharné des chrétiens, pour tuer tous ceux qui voulaient croire, qui disaient qu'il était croyant en Jésus. Mais Paul, après, il a rencontré Dieu sur la route de Damas. Il est changé complètement. Nous voyons à travers toutes ces histoires-là, nous voyons des femmes qui étaient troublées, qui ne saisissaient pas tout à fait au début tout ce qui se passait. Mais au fur et à mesure qu'ils ont vécu la situation et la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, ils se levaient pour témoigner eux-mêmes de leur foi en Jésus-Christ. Mais je dois vous dire aussi que ce n'est pas simplement un changement de vie, mais un changement de vie de notre existence par la foi en Jésus, qui nous donne aussi un pouvoir en dehors de nous-mêmes qui marche. On a vu tout à l'heure, on a entendu l'histoire tout à l'heure, que les dames, quand ils s'approchaient au tombeau, ils se demandaient entre eux, mais comment va rouler la pierre devant le tombeau? Comment va ouvrir la pierre pour qu'on puisse préparer le corps de Jésus? Vous vous souvenez de l'histoire? En arrivant, ils étaient étonnés de voir que la pierre énorme qu'il était roulée loin de la porte qui pouvait entrer. Je me demande ce matin, est-ce que parfois nous sommes confrontés avec des choses qui nous empêchent de suivre Jésus? Est-ce que nous voulons le croire, nous voulons faire certaines choses, mais parfois à travers certaines expériences dans nos vies, on dit, mais comment on va arriver? Comment on va faire les choses pour comprendre que je peux m'engager avec Dieu? Peut-être pour plusieurs d'entre vous ce matin, entre nous ce matin, nous avons entendu l'histoire de la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ et nous voulons bien la croire, nous pensons. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. Comme les femmes, ils avaient une grosse pierre devant eux qui les a empêchés de rentrer, de voir la réalité. Est-ce qu'il y a une grosse pierre dans votre pensée ce matin, dans vos yeux, dans votre famille, dans votre travail? Est-ce qu'il y a des choses qu'on attend de Dieu que lui, peut-être, il trouve que ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire qu'on trouve le corps de Christ, mais c'est nécessaire qu'il se ressuscite en nous la vie éternelle. C'est là la clé. La vie qui vient de Jésus, ce n'est pas que ça vient de nous. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de dire oui à Jésus par la foi pour lui demander simplement « Sauve-moi, donne-moi la grâce, Seigneur, de comprendre, de saisir ce sens de la résurrection. Donne-moi la puissance, Seigneur, qui passe au-delà de mes pensées, de mes capacités, de même de comprendre et de saisir. » Je crois que Paul nous donne des exemples des choses que pas simplement la résurrection, c'est pas simplement quelque chose qui est un changement possible. C'est pas simplement quelque chose qui est un pouvoir possible pour chacun de nous. Mais Paul nous cite en Colossiens chapitre 3 plusieurs versets qui nous dirigent vers la pensée de notre vie que nous devrons avoir. Je vous invite de tourner avec moi dans vos Bibles, en Colossiens chapitre 3. Le premier verset que Paul nous donne, en chapitre 3, verset 1, il dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. » Curieux, Paul dit, « Vous êtes ressuscités. » Frères et sœurs, si vous êtes en Christ aujourd'hui, vous avez déjà la nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes ressuscités aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. On n'attend pas son retour, on est déjà sur un stade de vie qui est différent que d'autres personnes. Parfois, on est mal compris. Et parfois, nous avons du mal à comprendre comment les gens vivent, comme ils font. Parce que cette vie nous donne une existence à part de la vie de l'homme normal. Et c'est ça que Paul dit ici. Pour ceux qui sont en Christ, vous êtes ressuscités. Pour ceux qui sont en Christ, vous avez une existence en évidence qui est différente de l'homme normal. Qu'est-ce qu'il dit, Paul, dans ces premiers versets-là? Il dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. » Pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont vivants en Jésus-Christ, pour ceux qui sont ressuscités dans notre esprit avec lui, nous ne cherchons pas le but de notre vie sur terre. Nous devons chercher le but de notre vie dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est toujours frappant la question que l'ange a posée aux dames qui, quand ils sont venus au tombeau. Vous vous souvenez cette question? Pourquoi cherchez-vous? Voilà, vous connaissez bien. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Paul nous dit, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Déjà, ce n'est pas la peine de chercher la vie parmi les morts. Donc, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui se présente devant nous. La réalité de l'existence est déjà en Jésus-Christ et lui ressuscité. Ça commence avec un choix dans notre vie. Notre commencement, c'est de commencer en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne cet nouvel esprit, cette nouvelle existence, cette nouvelle point de vue envers tout ce qui existe. Parfois, nous avons notre pensée qui doit être éclairée. On se demande parfois comment le faire. Paul nous encourage dans ces versets de fixer notre regard sur les choses en haut. Regardez, il faut le connaître, il faut l'aimer. En Matthieu 6, 21, la parole nous dit, « Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Dans la prière de Jésus, de notre Père, qu'on cite souvent, il a dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » Est-ce que c'est votre but ce matin? Est-ce que c'est notre but ce matin? C'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un énigme de façon de vivre. Que la volonté de Dieu se fasse en nous, dans notre vie sur terre, comme sa volonté se fasse au ciel. Jean-Baptiste disait qu'il augmente en importance et moi que je diminue. Oui, il y a un pas à faire. Paul nous cite dans les versets, faites mourir donc, si vous vous engagez avec le Seigneur Jésus par la foi, ça c'est le premier pas. Une partie de ce premier pas, c'est de commencer de faire mourir les choses du monde. C'est comme parfois on veut faire un jardin et on n'enlève pas des mauvaises herbes. On essaie de faire la bonne semence parmi les mauvaises herbes. Et parfois c'est la difficulté que nous avons en tant que chrétiens même de vivre notre vie. Nous essayons toujours de planter des bonnes semences parmi les mauvaises herbes dans notre vie. Paul nous cite en verset 5, « Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie apparente à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impurité, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtre. » Bon, il y a quelque chose qui m'a frappé là. On dit, oui, c'est évident, l'impureté, l'inconduite, passion incontrôlée. Il y a quelque chose qui m'a touché souvent quand je lis ce verset. La soif de posséder. Combien parmi nous ne cherchent pas toujours d'acheter de nouvelles choses? Encore et encore et encore. Est-ce que nous sommes en train de chercher les choses du monde constamment? Un désir de remplir notre vie avec beaucoup d'activités, beaucoup de possessions, beaucoup de choses qui nous rendent plaisir. Paul a dit, ça devient des idolâtres. Et dans ce cas-là, j'ai beaucoup réfléchi, souvent je me suis dit, mais où est l'idolâtre dans ce genre de choses? L'idolâtre, c'est de me regarder à moi, de me rendre plaisir à moi. C'est ça de l'idolâtrie, c'est de me rendre plaisir à moi finalement, de créer des dieux, de faire les choses moi-même, de faire les gestes pour moi-même, pour me rendre plaisir. Ça, c'est l'idolâtre. C'est moi qui est en plein milieu de toute cette activité. Paul a dit en verset 8, « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, la colère, irritation, méchanceté, insulte, des propos grossiers qui sortent de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. » Voilà, troisième partie. On accepte le Seigneur Jésus par la foi. On commence de fouiller dans notre sac, notre vie, pour faire enlever les choses qui nous empêchent de regarder en haut. Et après, Paul nous dit, l'homme nouveau trouve son plaisir dans le service de rendre plaisir en Christ. Il y a une vie différente qui doit être menée chez nous. Parfois, nous disons, Seigneur, je voudrais vivre selon ta volonté, mais nous gardons toujours parfois certaines choses. Mais verset 11, dans le même chapitre de Colossiens, chapitre 3, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les circoncis et l'incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que Christ, celui qui est tout en tous. Pour nous, des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ, nous ne devons plus avoir des favoritismes. Chaque fois qu'il y a des favoritismes, c'est une indication que la présence de l'Esprit de Dieu n'est pas comme il faut. Chaque fois qu'il y a racisme qui se manifeste pour une raison quelconque, que ce soit à cause de l'éducation, que ce soit à cause de notre placement social, que ce soit à cause de couleur, que ce soit que de notre éducation, le racisme, c'est une indication de l'Esprit de Dieu qui n'est pas où, à sa place, où il devrait être. Quand il y a des inégalités qui se manifestent dans notre vie, quand il y a des accusations les uns contre les autres, quand on garde leur rancune contre quelqu'un d'autre, c'est une évidence que l'Esprit de Dieu dans notre vie n'est pas à sa place. Quand nous avons une mauvaise existence, un mauvais esprit, les uns contre les autres. Paul a dit, revêtez-vous ardent, de ardent bonté, libre pour aider les uns les autres dans notre vie, de les encourager les uns les autres, de bienveillance, attendre les uns les autres. Parfois, quand on marche dans une assemblée, il faut parler, il faut prier, il faut laisser agir l'Esprit de Dieu pour nous emmener tous ensemble sur le but qu'il a pour nous à posséder. Service aux autres en premier. Ouf. Peut-être c'est un petit exemple, mais c'est pas grand-chose, mais quand même, on cherchait du glace dans le magasin hier soir. J'ai déjà passé devant le rayon, j'ai surveillé, je n'y avais pas. Je cherchais que de vanille d'une marque particulière que je voulais. Je n'ai pas trouvé. Je suis y retourné plus tard et j'ai voyé ma femme qui cherchait aussi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, zut, alors, j'ai trouvé un bac qu'on cherche et j'ai pensé qu'il avait trouvé un autre et je l'ai passé à quelqu'un d'autre. Et on ne l'a trouvé plus. C'est une petite chose. Mais est-ce que nous sommes prêts nous-mêmes de passer les choses aux autres en premier? Est-ce que nous sommes prêts de passer la parole aux autres en premier? Est-ce que nous sommes aussi aptes d'entendre et d'écouter la parole des autres au lieu de calculer tout ce qu'on veut dire pour le contredire, ou pour le rendre preuve que moi, je sais mieux que d'autres. Paul continue verset 13 avec une phrase qui m'a pris longtemps de comprendre en français. Supportez-vous les uns les autres. Moi, j'ai pensé ça, ah, ça c'est gentil ça. Mais au fur et à mesure des années, on m'a dit que c'est pas tout à fait dans le sens qu'on est content avec ce qu'on fait les autres. C'est le fait qu'on ferme les yeux peut-être un petit peu, on cherche pas à fouiller les raisons pour lesquelles ça n'a aucun sens pour nous peut-être. On soutient les uns. Supportez-vous les uns les autres. Et il a dit, et si l'un de vous a quelque chose, il a dit, si vous avez certains quelque chose contre quelqu'un d'autre, il n'a pas dit de le corriger. Il a dit, pardonnez les uns les autres réciproquement. Le Seigneur vous a pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres de même façon. Par-dessus de tout cela, Paul dit, et par-dessus de tout cela, revêtez-vous l'amour qui est le lien par excellence de toutes choses. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Vous vous souvenez l'histoire dans l'Ancien Testament de Caleb et Josué. Ils sont partis à la recherche de regarder ce qui se passait dans les autres pays que Dieu voulait le donner. C'était les deux seuls qui sont venus pour dire oui, mais nous, on peut faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut nous offrir, on peut l'accueillir. C'était le seul. Et après le vote démocratique, la majorité dit non, on n'y va pas. On peut dire, Josué et Caleb, ils auraient pu partir en disant, oh, c'est pas pour nous, c'est pas la sagesse, c'est pas la volonté de Dieu, nous on part. Mais non, ils ont resté. Ils ont resté même avec le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert, en cherchant, en fouillant des choses dans leur vie qui ne marchaient pas exactement comme il faut. Et c'était des années après, c'était la choix de Dieu qui les a offert de rentrer dans ses promesses, la terre promise. C'était Josué qui était devenu le dirigeant du peuple d'Israël. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. La résurrection, c'est une histoire vraie, mais c'est plus qu'une histoire, c'est un pouvoir qui nous donne la possibilité de ôter les pierres dans nos vies, de fouiller dans notre vie pour nous éclairer et de regarder en haut. La résurrection de Jésus-Christ nous donne une autre vision des choses, de ne pas regarder en bas, mais en haut, avec la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. J'espère pour vous, j'espère pour moi, cette réaction, cette résurrection de le pouvoir de Jésus soit une réalité pour vous aujourd'hui. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà ressuscité. Si vous n'êtes pas ressuscité, peut-être c'est une indication que vous n'êtes pas en Christ. Si vous n'avez pas le pouvoir de donner votre vie à Jésus, de laisser lui agir dans votre vie, c'est une question peut-être que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce, l'amour, la sagesse de saisir le sens de la résurrection et la vérité pour chacun de nous. Prions, Seigneur. Nous avons chanté tout à l'heure, attaché à la croix pour moi. Seigneur, que nous puissions tous arriver sur le moment de chanter cette parole dans notre vie. Et que nous arrivons aussi de chanter ressuscité de la mort à la vie. Seigneur, que cette parole puisse être la parole de notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions.